Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre parcours avant la maison d'ailleurs? Comment vous êtes arrivé jusque-là?
Mon parcours, il est assez simple dans le sens où j'ai... Donc après mes études obligatoires, je suis rentré à l'université. J'ai fait un double master, un master en physique et un master en lettres. Et en lettres, en Suisse, j'ai choisi deux branches, en l'occurrence la littérature française et la philosophie. Puis j'ai fait mon master donc en physique. Mais en physique, je me suis spécialisé dans la mécanique quantique et en relativité générale. Et puis en lettres, j'ai fait mon master en philosophie des sciences. Puis suite à ça, on m'a proposé de faire une thèse en littérature française. J'ai fait une thèse, donc ça dure à peu près 5 ans. J'ai fait une thèse de 5 ans sur la littérature de science-fiction. En l'occurrence, j'ai fait ce qu'on appelle une poétique. J'essaie de voir comment ça fonctionnait au niveau du texte. Comment on pouvait distinguer le fantastique de la science-fiction du merveilleux, les différents sous-genres, etc. En se basant sur un peu des outils littéraires classiques, mais avec la formation de nouveaux outils littéraires, en particulier une exploitation assez grande de l'idée de Vercin, qui était l'idée de la conjecture romanesque. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà, un peu le contexte historique dans lequel émerge la science-fiction, une poétique, comment ça fonctionne, et puis une pragmatique, à quoi ça peut conduire, quels sont les différents types de lectures qui peuvent émerger de la littérature de science-fiction. Voilà, c'est un peu l'exploration que j'ai fait dans ma thèse.
Et après cette thèse, tout de suite la maison d'ailleurs ou qu'est-ce qui s'est passé?
Non, après cette thèse, l'université de Lausanne dans laquelle j'enseigne m'a proposé un poste de post-doc. Donc j'ai continué à enseigner l'esthétique de la science-fiction en littérature française. Je l'enseigne à la fois au littéraire mais aussi à l'école polytechnique fédérale, donc aux ingénieurs qui ont des cours de sciences humaines. Donc j'ai continué là-dedans, puis à Patrick Guiguer, donc l'ancien directeur de la maison d'ailleurs, m'a dit qu'il partait, a voulu que je reprenne la maison d'ailleurs. J'ai postulé, j'ai repris la maison d'ailleurs. En restant en partie à l'Uni, donc je reste en partie à l'université, comme ça me permet de pouvoir faire des cours de spécialisation sur la science-fiction, d'avoir des mémorants et des doctorants qui viendraient travailler sur les fonds documentaires de la Maison d'ailleurs.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le projet Maison d'ailleurs? Vous parliez de Pierre Vercin tout à l'heure.
Ce qui m'intéresse, c'est que le projet Maison d'ailleurs, il est double. Il y a un projet purement muséal, donc monter des expositions pour faire connaître l'esthétique de la science-fiction dans ses différentes ramifications. Et puis il y a un intérêt intellectuel, un objectif intellectuel qui est de faire vivre, de développer, de faire vivre, d'exploiter le fonds documentaire, puisqu'on a le plus grand fonds documentaire de science-fiction en Europe. Il y a plus de 100 000 pièces dans le fonds. Et on n'a pas de chercheurs qui travaillent dessus. Quand j'étais doctorant, je travaillais dessus, mais comme j'ai fini ça et que je suis directeur, je ne travaille plus dessus. Donc c'est d'imaginer d'avoir des chercheurs qui viennent du monde francophone travailler sur le fonds avec des articles, des livres, une valorisation du fonds. Pour qu'on se rende compte, pour que le public se rende compte que la Maison d'ailleurs, c'est certes un musée, mais c'est aussi un lieu, un centre de recherche, un lieu intellectuel, un lieu dans lequel la science-fiction vit, est dans ses racines, mais aussi dans ses évolutions possibles, dans ses différentes ramifications, dans ce qu'elle amène, dans ce qu'elle produit, etc.
Comment ça se fait qu'il n'y a plus de chercheurs qui viennent? Il y a moins de gens qui font de thèse sur la science-fiction?
Alors, en Suisse, je suis le seul à avoir fait une thèse sur la science-fiction. La raison est simple, c'est que vous ne pouvez pas faire de thèse sur la science-fiction si vous n'avez pas des cours dans les universités qui se passent sur la science-fiction. Il s'avère moi qui suis beaucoup en contact avec les chercheurs français, il y a un problème en France, c'est qu'il n'y a pas de chaire de science-fiction. Il y a une vague à Nice, mais c'est fantastique science-fiction. En Suisse, c'est beaucoup plus simple de faire une chaire. Donc moi, j'ai une chaire de science-fiction, j'ai la seule chaire de science-fiction en Europe francophone. Donc je donne que mes cours sur la science-fiction, je n'ai pas besoin de passer par le fantastique pour légitimer une esthétique de SF. Mais avant ça n'existait pas, donc maintenant il y a ça, grâce à ça on a des mémorants, etc. Et donc ce qui se passait avant mon profil, c'est que personne ne travaillait sur la science-fiction, donc il n'y avait pas de cours sur la science-fiction, en tout cas quasiment pas, donc pas de mémorants, donc personne qui allait travailler sur les fonds. Ça, c'est le premier argument. La deuxième chose, c'est que pour travailler sur un fonds documentaire, il faut de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez engager un chercheur sur une semaine, une année, 3 ans. Alors c'est possible de faire ça, mais ça suppose que dans le musée, donc dans la maison d'ailleurs, il y a une partie du budget qui soit consacrée aux chercheurs. Et pour diriger une recherche en Suisse, il vous faut que le directeur de recherche soit quelqu'un qui possède un doctorat dans le domaine sur lequel on fait de la recherche. Étant le seul docteur suisse à avoir un doctorat sur la science-fiction, c'est pour ça que ça ne pouvait pas se développer avant. Patrick Guiguer a essayé de développer, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas la reconnaissance académique lui permettant de pouvoir monter un projet de recherche universitaire. Et c'est pour ça qu'il a proposé que ce soit moi qui reprenne la maison d'ailleurs.
Quel type de public vient à la maison d'ailleurs?
Tout public, beaucoup d'écoliers parce qu'on a des liens avec les écoles des petites écoles, disons, de la région yverdonoise, donc la région autour du musée, des adolescents de la région, des adultes, des personnes plus âgées. Je crois que c'est vraiment un public assez diversifié. C'est un public qui cherche une exposition un peu particulière, un peu spéciale, qui cherche une esthétique aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les musées d'art contemporain ou d'art moderne. Donc on a vraiment un public qui va de, on va dire, de 7 à 77 ans, pour faire comme les jeux MB.
Parce que c'est vrai que nous, parfois en France, on a l'impression que la science-fiction, s'il n'y a plus qu'un fandom qui s'y intéresse et que des spécialistes, ça c'est pas le cas, il y a tout le monde qui vient, quoi.
Tout le monde vient parce qu'on n'a pas de culture SF en Suisse, au sens strict. On a une culture SF à travers le cinéma hollywoodien, à travers quelques romans, les classiques d'Asimov, Clark, etc. Mais la maison d'ailleurs, on a aussi toujours été, et moi je continue dans cette voie-là, lancée par Patrick Guiguer, d'essayer de montrer que la science-fiction, c'est pas que les objets qui pourraient être valorisés par le fandom. C'est aussi de l'architecture, c'est aussi de l'urbanisme, c'est aussi des rapports à la technologie. On a la chance d'avoir une école polytechnique qui est à 20 minutes de la maison d'ailleurs, donc avec laquelle on travaille, on collabore sur des projets d'exposition pour montrer que comment l'imaginaire scientifique se développe, comment l'imaginaire littéraire se développe. Donc on a une sorte de, on va dire, de micro société autour du rapport à la technologie. Et la Suisse étant un pays qui a une longue tradition d'artisans, d'orfèvres d'ingénieurs, on a aussi un public qui est assez conquis à l'idée de la science-fiction comme un imaginaire de la science et de la technologie, et qui, disons, se rend assez facilement aussi aux expositions.
Parlez-moi un petit peu des expositions justement en cours, une steampunk, une autre qui arrive.
Alors actuellement, on expose les œuvres de Greg Brodmore, hein, artiste néo-zélandais travaillant pour Weta Workshop. Weta étant l'institution qui fait les effets spéciaux des films comme... bon, là, ils sont en train de travailler sur The Hobbit, mais ils ont fait avant Le Seigneur des Anneaux, Avatar, District 9, etc. Et un de leurs employés, donc Greg Brodmore, a développé un univers, on va dire, rétro-futuriste, qui est un univers critique par rapport à l'idée de la colonisation, puisqu'on a affaire à un aventurier qui part sur Vénus et qui raconte en fait cet événement-là. Donc on expose des peintures, des objets, on expose aussi le shop Weta, c'est-à-dire on a des articles, des produits dérivés qui viennent directement de l'industrie Weta. C'est ce qu'on expose actuellement, c'est ce que ça s'appelle, on l'a appelé la très extraordinaire expérience du Dr Gorbort. Dr Gorbort, c'est le nom officiel de l'exposition en anglais, qui présente surtout principalement de la peinture numérique et qui développe cet univers, disons, post-steampunk ou rétro-futuriste, et qui laisse à voir et qui donne à voir en fait comment cette esthétique se constitue sur les clichés de la science-fiction, les clichés des pulps, etc. Et on essaie de montrer un peu ça aux gens. Donc ça, c'est l'expo actuelle qui va jusqu'au 21 août. Depuis le 22 août, on démonte l'expo et on monte une expo de sculpture de Stéphane Halleu, artiste belge exposant actuellement au Luxembourg, qui travaille beaucoup. Alors là, c'est du steampunk beaucoup plus classique, vraiment style victorien, fin 19e, avec des sculptures qui représentent des personnages à la fois en cuir, aventuriers, quelque chose qui marche très très bien en Belgique et au Luxembourg, et qu'on se réjouit d'avoir. C'est des sculptures qui font environ 30-50 cm de haut, et qui redéveloppent et qui continuent à développer un univers steampunk.
Quels sont un peu les projets, vos projets tout du moins, qui arrivent ?
Alors mes projets, je viens de terminer un échéancier sur jusqu'à fin 2014, donc mes projets, il y en a beaucoup. Mais on va dire, en gros, je continue alors évidemment, les expos ont été planifiés par Patrick jusqu'à l'année prochaine. Donc là, je continue ces expos-là. On a une grande expo d'une année l'année prochaine sur les jeux vidéo, qui est peut-être la plus grande expo qui aura jamais été faite, qui ne sera jamais faite à la maison d'ailleurs, qui est en plus sponsorisée et demandée par Paul Vessel, l'Institut Suisse pour la Culture, qui fait intervenir une quarantaine d'œuvres d'artistes différents autour de l'esthétique du jeu vidéo. Plutôt une œuvre réflexive qu'une œuvre... On ne va pas exposer des œuvres d'arcade, mais plutôt des œuvres qui interrogent l'univers du jeu vidéo et les rapports qui se tissent entre le jeu vidéo et l'individu. Parallèlement à ça, on est en train de mettre en place une expo permanente. On a déjà une expo permanente sur Jules Verne. Donc on va dire du XVIIe siècle au XIXe siècle, ça se cristallise avec une des collections qu'on a reçues sur Jules Verne. Et là, on va mettre en place une deuxième permanente qui sera les science-fiction au XXe siècle. Donc, en historique, et puis une répartition modulaire, BD, roman, film, À l'intérieur de chacune de ces parties, on pourra en plus avoir des sous-modules, donc faire par exemple axer la permanente autour du space opera ou du steampunk pour faire des liens plus clairs avec les expos temporaires. Si je fais une expo temporaire steampunk, je vais moduler ma permanente en steampunk pour que le spectateur et le visiteur puissent mieux comprendre ce qu'il va voir après dans l'art contemporain. Ça, c'est les projets muséographiques, donc les expos permanentes et temporaires. Donc 2012, Playtime, les jeux vidéo. Début 2013, mise en scène de l'expo permanente. Et là, soudainement, la surface d'expo temporaire se réduit, permettant de faire plus d'expos temporaires sur des thématiques diverses. Là, j'ai déjà une expo sur Stalker, donc l'esthétique Stalker, Strugatsky et Tarkovsky. J'ai une expo sur l'iconographie de la fin du 19e siècle, comment on s'imaginait le futur, qui vient d'un fonds qui s'appelle le fonds Watts. On a une expo une prévision d'exposition d'un artiste français qui s'appelle Nicolas Moulin, qui fait de la sculpture, photographie un peu dystopique, post-apo, comme ça. À côté de ça, il y a tous les projets sur le fonds documentaire. Donc moi, mon but, c'est de développer le fonds documentaire et développer l'infrastructure du fonds documentaire, donc faire venir des chercheurs à la maison d'ailleurs. Pour ça, il faut déjà en débaucher, avoir des mémorands, des catalogues d'exposition, faire des articles sur les catalogues, enfin pour les catalogues, et puis travailler plus sur le fond, d'avoir des gens qui travaillent sur différentes parties du fond documentaire. Ça, c'est quelque chose de plus longue haleine, mais qui est, à mon avis, un des grands objectifs que j'ai pour la maison d'ailleurs. Je pense qu'il me faut une année et demie pour mettre en place les structures. Je dirais dans 3 ans, ça va rouler, quoi.
Et dernière question, quelles sont un peu vos envies, du coup? Qu'est-ce que vous aimeriez que la maison d'ailleurs soit?
Alors j'ai envie déjà qu'elle continue à être ce qu'elle est, c'est-à-dire le plus grand centre européen, le seul musée européen de la science-fiction, et le plus grand centre documentaire sur la science-fiction en Europe, et qu'elle continue à être un édifice unique dans le monde, puisqu'aucun endroit dans le monde réunit à la fois un fonds documentaire SF et un côté muséal. Bon. Mais j'ai aussi envie que les gens voient mieux la richesse du fonds documentaire. On sait tous que ce qui fait la force d'un musée, c'est son fonds, en fait, c'est les documents, les œuvres qu'il possède, sur lesquelles on travaille. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en parenthèse pour des raisons structurelles pendant une dizaine d'années. Et moi, j'ai envie qu'on se réfère à la maison d'ailleurs comme, oui, un endroit où on expose, mais aussi un endroit où on réfléchit la SF, où on pense à l'avenir de la SF, on pense aussi à son passé, et on a des gens compétents, des chercheurs qui viennent travailler là-dessus, soit pour des temps relativement brefs, soit pour des temps plus longs. Un de mes grands projets, c'est de monter un projet qu'on appelle FNS en Suisse, qui est le CNRS français, mais en Suisse, donc tout ce qui touche à la recherche scientifique. Donc monter un projet FNS sur 3 ans avec 3 chercheurs qui travailleraient sur des questions liées à la science-fiction au niveau du doctorat. Voilà, ça c'est plutôt un développement du fond, puisque le développement des expos a été particulièrement bien fait par Patrick. Je pense qu'il est difficile de faire mieux que Patrick Guiguer là-dessus. Par contre, le niveau du fond documentaire, c'est plus compliqué. Il faut avoir un pied dans l'université, et comme je garde un pied dans l'université, j'aimerais moi amener le fait que au niveau expo, ça va continuer comme ça et ça va être bien. Maintenant, il faut aussi qu'on parle du fond documentaire.
Ok, merci beaucoup.